Veuillez vous asseoir. J'aurais voulu chanter, mais pas aussi bien qu'eux. Mais c'est des chants qui nous portent, n'est-ce pas? Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Je dirai à mon âme, car Dieu est là-haut et il fait ce qui lui plaît. Oh, la Bible dit que la volonté de Dieu est bonne et parfaite. Donc tout ce qu'il fait est bon. Même si des fois, c'est dur. C'est vrai que nous sommes dans une période pas facile. Au niveau mondial, ça fait plus d'un an qu'on est dans cette forme de vie un peu en parenthèse, où quelque part, Dieu parle à l'humanité. Chacun l'entend comme il le souhaite. Pour certains, Dieu nous avertit que tout n'est pas sous contrôle, mais il n'y a que lui qui contrôle tout, que nous les humains, beaucoup de choses nous échappent. Et que nos vies ne sont pas faites de vies rapides, de courses de tous les temps, et que parfois, c'est une illusion de croire que si on court vite, on règle tout. Pendant plus d'un an, tout s'est arrêté, et pourtant la vie continue. Certes, au ralenti, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, aussi riche soit-il. Et cette pandémie n'a pas fait des distinctions entre pays pauvres et pays riches. Il semble que ce sont les pays riches qui ont été les plus arrêtés, n'est-ce pas? Il semble que ce sont les pays riches qui payent le plus gros tribut. La vie d'un homme, aussi riche soit-il, ne dépend pas de ce qu'il a, mais dépend de Dieu. Si nous pouvons juste tirer la leçon, celle-là, de ce que nous traversons tous ensemble, si l'humanité pouvait tirer cette leçon-là. C'est à ce propos que l'Ecclésiaste a invité le croyant à réfléchir. Ecclésiaste chapitre 7, versets 1 à 2. Tu peux afficher. Voilà. Donc c'est le thème d'aujourd'hui. Hein. Et puis ça, c'est l'Ecclésiaste. Il dit, mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné. Et le jour de sa mort est préférable à celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme. Et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est encore en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car un visage triste, le cœur peut être content. Le sage avait cette façon d'énoncer des proverbes pour faire réfléchir. C'était la façon de l'époque de formuler des réflexions plus profondes dans des sentences très courtes. Si Salomon est l'auteur, c'est ce que c'est. Il fait une remarque sur la valeur de la vie. Et il compare deux choses. Il dit, c'est vrai que avoir des vêtements qui sentent bon, c'est utile. Parfois, c'est nécessaire. Mais il dit à quoi bon se sentir bon si la réputation qu'on a n'est pas bonne. Comme s'il disait, tu peux mettre le plus cher des parfums du monde, mais si ta réputation, si c'est que tu es, n'est pas bon, si ta réputation n'est pas bonne. Et Salomon fait allusion, certes, à la réputation dans la société, mais à la réputation devant Dieu. Si ta réputation n'est pas bonne, à quoi sert-il alors d'avoir des parfums raffinés? Et le jour de la mort est préférable au jour de la naissance. Parce qu'il dit, et c'est moi qui l'interprète, la naissance, tu la choisis pas. C'est tes parents qui la choisissent pour toi. Mais comment tu vis par la suite, ça dépend de toi. Et la Bible dit, comment tu veux mourir aussi dépend de toi. Est-ce que tu veux mourir sans Christ? Ça dépend de toi. Est-ce que tu veux mourir avec le Christ? Ça dépend de toi. Le jour de sa mort est préférable à celui de sa naissance. Pas en termes de c'est mieux de naître ou c'est mieux de mourir, non. C'est de dire, tu es né, c'est ton fait, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? C'est bien d'y réfléchir jusqu'à ce que, même bien un peu avant que la mort ne vienne. Bien un peu avant. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil. Pas que Salomon invitait les gens à mourir tout le temps, non. Il dit parfois, quand le deuil nous atteint, c'est ce que nous vivons ici, dans notre communauté, depuis une semaine, par rapport à ce départ de Déborah, dans la patrie céleste, ça nous fait réfléchir. sur la vie, finalement. On prie tous et on espère tous vivre longtemps. Et Dieu veut qu'on espère comme ça. Mais qui sait combien de temps nous vivrons? Et pendant que nous vivons, chaque jour doit nous rappeler que chaque jour compte. Que chaque journée compte. 22 ans, c'est jeune, n'est-ce pas? Elle avait 22 ans. Chaque journée compte, bien-aimé. Nous ne savons pas à quel âge nous partir. Dieu seul le sait. Et quand on perd notre chair, ça nous rappelle la brièveté de la vie. La vie est si brève. Qu'est-ce que 120 ans dans toute l'éternité, finalement? Parce que les plus vieux d'entre nous mourront à 120 ans. Mais qu'est-ce que 120 ans dans toute l'éternité? C'est une parenthèse. Mais une parenthèse utile. Parce que c'est ici que nous devons décider qu'est-ce que sera notre éternité. C'est ici et maintenant qu'on décide où on veut vivre dans l'éternité. Alors Salomon conseille de réfléchir à la brièveté de la vie plutôt que d'être insouciant et de livrer sa vie à l'insouciance d'un monde qui se nomme plus athée que croyant, n'est-ce pas? Notre monde se définit aujourd'hui comme un monde athée. Athée, ça veut dire, nous on croit en aucun Dieu. On croit en l'humain. L'humain est fort, il est intelligent, il est puissant, il est ingénieux. Regardez, il allait jusque sur Mars. Bientôt, il va conquérir les autres planètes et vous verrez. L'humain peut lui faire confiance. Dans le même temps que nous sommes sur Mars, dans le même temps, un jeune de 14 ans poignarde un autre jeune de 17 ans et le tue à mort. Dans le même temps, dans ce territoire de la Palestine, depuis plus d'une semaine, il y a des vies qui partent parce qu'il y a un conflit armé entre deux peuples. Terribles les images que nous voyons. Dans le même temps, il y a des guerres un peu partout dans le monde. Et pourtant, nous sommes allés sur Mars. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'humain? J'en sais rien. Mais est-ce qu'on peut faire confiance en Dieu? Oui. Parce que lui, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je souhaite vous parler de l'espérance qui est en Dieu. Le Dieu de l'espérance. Celui en qui nous avons raison d'avoir confiance. N'est-ce pas? Celui en qui nous avons raison d'avoir confiance. Et l'évangile de Luc va nous aider. On croit bien souvent dans nos sociétés dites modernes que l'aisance sociale, que l'aisance matérielle est un gage de bénédiction durable. On croit que si on est à l'abri du besoin, ça va, on est bien. D'un côté, c'est pas faux. Être à l'abri du besoin, c'est bien quand même. Avoir faim, pour ceux qui n'ont jamais eu faim, je peux vous dire, avoir faim et chercher sa pitance dans la journée, ce n'est pas quelque chose que je souhaite à aucun d'entre nous. Vivre dans des pays en guerre, je viens d'un de ces pays, ce n'est pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un. Donc avoir la paix, avoir un minimum social, c'est bien. Mais l'illusion, c'est de croire que c'est ça, la finalité de toute chose. L'erreur, c'est ça. Alors, Jésus passait et une interrogation a fait une occasion d'enseignement pour Jésus. Luc chapitre 13, à partir du verset 22. Jésus passait ainsi à travers villes et villages et il enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Je reprends le verset 24, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes resté dehors, Vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez. » Alors vous direz, « Mais nous étions à table avec toi. Nous avons mangé et bu sous tes yeux. Tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra, « Je vous le répète, je ne sais pas d'où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même, vous en serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Et certains de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Après cet épisode, Jésus a pris du temps pour enseigner par plusieurs paraboles sur le royaume. Avec l'accent sur ce verset 24, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Car nombreux sont ceux qui voudront y entrer, mais ils n'y parviennent. Et Jésus va expliquer avec cette parabole en détail, enfin, de façon un peu plus explicite, ce qu'il voulait dire. Luc chapitre 16, versets 19 à 21. Ça, c'est l'explication. Le texte, il est long, donc vous ne l'avez pas en face. Et je lis le texte avant l'explication. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportaient auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ses flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qui les écoutent. « Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va le trouver, ils changeront. » Mais Abraham répliqua, « S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. » Jusque-là, la parole de Dieu. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts, n'est-ce pas, pour entrer par la porte étroite. Et dans l'évangile de Jean, Jésus va dire, je suis la porte. Les brebis rentrent par la porte, n'est-ce pas. Il dit, je suis le bon berger. C'est pas la richesse du riche qui est le problème ici, dans cette parabole. C'est pas sa richesse. C'est le fait que sa richesse lui a donné de croire que c'était que ça la vie. Que la vie, finalement, c'était, voilà, de jouir des biens de la terre sans se soucier des autres ni de Dieu. C'est ça son problème à lui. Tellement il était à l'aise que ni Dieu ni les autres ne lui disaient rien. Ce n'est pas le fait que Lazare soit pauvre qui a fait qu'il rentre au ciel. C'est parce que malgré sa pauvreté, il n'a pas régné Dieu. Il a gardé Dieu dans son cœur. Vous savez, il y a des situations de nos vies parfois où on peut rejeter Dieu. Asaph l'a vécu et il a écrit un psaume. Asaph dit, mais c'est pas vrai, moi je te crains, je te respecte. Mais regarde, je regarde ceux qui ne connaissent pas Dieu, tout va bien chez eux. Et moi qui chaque matin me lève en me disant Dieu est dans mon cœur, je loue Dieu, je me sanctifie, les choses ne vont pas si bien que ça. Pire. Et à un moment donné, j'ai failli même me dire, à quoi ça sert d'avoir Dieu dans son cœur? Dit, j'ai failli trébucher. Mais il dit, malgré cet apparent des choses, j'ai réfléchi quand même. Et il dit, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais quelle est la finalité de chacun de nous? Quelle est la finalité de celui qui craint Dieu et quelle est la finalité de celui qui ne craint pas Dieu? Il dit, waouh! La fidélité de celui qui craint Dieu est bénie, même s'il souffre, parce que, in fine, Dieu prend soin de lui, ici et là-bas. Or, la finalité de celui qui ne craint pas Dieu, il dit, c'est comme la fleur qui a paru le matin et qui le soir est fanée, et même le sol où elle a poussé ne se souvient même pas de cette fleur. Il dit, c'est ainsi le sort du méchant. Il partira dans une tragédie sans nom. Il dit, j'ai réfléchi. Et c'est ce que le Seigneur fait avec cette parabole. Il nous demande de réfléchir. De réfléchir à notre positionnement chrétien. Mais à l'espérance qui est attachée à notre foi. À l'espérance qui est attachée à cette foi-là. Et cette parabole, c'est vrai, on ne peut pas interpréter tous les éléments que Jésus dit dedans parce que c'est une parabole. Mais elle nous parle de façon spéciale. Il dit, le pauvre Lazare mourut et les anges, incroyable, et les anges sont venus le chercher pour le mener dans le sein d'Abraham. Les anges sont venus le chercher. Et c'est la description de Jésus qui m'étonne toujours. Il dit, le riche mourut, on l'enterra. Point. Ça fait réfléchir. Lui qui était servi, lui qui avait des serviteurs dans la vie présente, bah quand il est mort, on l'enterra, point. Et l'autre qui n'avait aucun serviteur, c'est les anges qui viennent le chercher. C'est les anges qui viennent le chercher. Cette parabole prend tout son sens puisque c'est dans la bouche de Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui donne cette parabole. Donc, chaque image qu'il prend pour transmettre cette parabole a un sens fort parce que c'est lui qui le dit. Il aurait pu ne pas dire que les anges venaient chercher Lazare, mais il le dit, parce qu'il veut communiquer une vérité, n'est-ce pas? Les anges viennent chercher Lazare. Lazare n'est pas en souci, puisque Lazare est en paix. Lazare est déjà rentré dans cette prémisse de gloire. Parce que le texte commence pas en disant Lazare, non, le texte commence dit, quand ils sont tous les deux morts, le premier qui commence à s'agiter, c'est le pauvre, c'est le riche. C'est le riche qui commence à s'agiter, parce que ça ne va pas. Dès la première seconde qu'il a fini ici-bas, dès la première seconde de la fin de sa vie ici-bas, ça a commencé à mal aller. C'est cette espérance qui est attachée à nous bien-aimés. Dès la première seconde où nous partons d'ici, notre sort éternel, il est déjà scellé. Dès la première seconde où nous avons rendu l'âme, comme on dit, nous basculons dans deux réalités. Soit on commence à vivre cette souffrance éternelle, soit la félicité éternelle. C'est cash. Et cette parabole de Jésus nous met en face de ça. Ça veut dire que notre jeune sœur, Déborah, le vendredi, il y a maintenant une semaine, quand elle a rendu l'âme, la seconde qui a suivi, elle était comme Lazare. Elle était comme Lazare. Elle est déjà rentrée dans la gloire éternelle. Déjà. Déjà rentré dans la gloire éternelle. Elle a fini avec la souffrance. Elle est dans la félicité. Déjà. Wow. Si Jésus ne l'avait pas dit, nous pourrions dire que c'est un beau film. Non, mais ce n'est pas un film. C'est Jésus qui l'a dit. Le pauvre est déjà rentré. Pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il aimait Dieu. Et qu'il n'a pas laissé ses conditions sociales le détourner de son Dieu. Parce que la description que Jésus donne de ce pauvre, elle est quand même très difficile. Il est pauvre, il est malade. Il est malade avec un ulcère purulent. Ça veut dire que sa faim, elle était presque déjà arrêtée. Purulente au point où Jésus ajoute une autre image, les chiens viennent lécher ses plaies. On peut dire que ça ressemble aujourd'hui à nos maladies incurables. Et l'une des maladies qui reste incurable dans notre génération, super modernisée, c'est les cancers. Nous n'arrivons pas encore à vaincre. C'est vrai. Elle emporte, il est chrétien, il est non-chrétien. Mais le test dit que finalement, Lazare, il est rentré dans la gloire de son Dieu. Lazare fut porté dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham est défini avant, en tout cas, la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce lieu qui est défini comme cet endroit déjà où il y a des prémices de ce que Dieu réserve à tous ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, mais réservé à tous les croyants avant Jésus-Christ. Donc tous les croyants qui mouraient avant Jésus-Christ, c'est celui-là qui était appelé le sein d'Abraham. Et le séjour des morts. Le séjour des morts. Et la Bible a cette thématique de la mort. Quand la Bible parle de la mort, même ceux qui sont sans Christ, le thème qui est employé pour eux, après leur mort biologique, c'est toujours les morts. On les appelle toujours des morts. Alors que ceux qui sont en Christ, après leur mort, on ne les appelle pas les morts. On appelle les bienheureux. Les bienheureux. Ça montre déjà la nuance. Parce que ceux qui meurent sans Christ, non seulement ils meurent biologiquement, mais ils meurent éternellement, puisqu'ils vont dans ce lieu de tourment éternel. Si on ne comprend pas cette portée de l'évangile, on ne comprend pas pourquoi Jésus a dit dans son ministère terrestre, il dit, vous ne savez pas, vous n'avez pas encore compris le danger qui vous guette. Vous n'avez pas encore compris l'ampleur, la profondeur du danger que vous... En fait, c'est un danger éternel. Ce danger éternel, c'est le tourment éternel. Et Dieu, depuis sa création, ne fait que des efforts pour vous en retirer. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Faites tous vos efforts. Parce que ce qui arrive, c'est qui arrive. On ne peut pas le décrire. C'est un tourment qu'on n'arrive pas à décrire. Et Dieu veut que chaque homme échappe à ce tourment. Et c'est pour ça qu'il a donné la vie de son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais il dit, celui qui le rejette est déjà jugé, il est déjà condamné, il est déjà en train de périr. Donc l'évangile n'est pas un jeu. Les enjeux sont trop graves pour qu'on joue avec l'évangile. Mais l'espérance est trop belle pour qu'on ne la saisisse pas non plus. L'espérance est trop belle pour qu'on ne la saisisse pas. Et ce riche, on a tous ce commentaire de lui. Père Abraham, il voit Lazare, il voit Abraham. Je souffre ici terriblement. Est-ce que Lazare peut tremper sa main, son doigt, ne serait-ce que son doigt, ne serait-ce qu'une goutte d'eau? Donc, tout est hyperbole, tout est mis en zoom pour voir la terrible souffrance qu'il a. Qu'est-ce qu'une goutte d'eau par rapport à celui qui festoyait tous les jours? Et là, il a besoin que d'une goutte d'eau pour être bien là où il a du tourment. Et quand il sait que son sort est scellé, et quelqu'un l'a dit, je le reprends ici, il dit, tant qu'on est vivant, on peut avoir plusieurs adresses. Ça dépend de notre vie professionnelle, on peut déménager. Donc, moi, il y a quelques temps, mon adresse était à Saint-Fargeau. Depuis 4 ans maintenant, c'est à Bonneuil. Certains d'entre vous aussi, vous avez déménagé en temps. Mais on a une adresse qui ne change pas, c'est celle de l'éternité. L'adresse à laquelle on rentre, elle ne change pas. Si on rentre à l'enfer, c'est à l'enfer pour l'éternité. Si on rentre au paradis pour l'éternité. Il n'y a que cette seule adresse-là qui ne change pas. C'est pour ça que le Épître aux Hébreux dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. À quelle adresse veux-tu aller, mon frère? À quelle adresse veux-tu aller, ma soeur? Quand il a compris que son adresse était scellée, il dit « Ok ». Ceux qui meurent, ils ont conscience de leur famille. C'est ce que Jésus nous dit. Ceux qui meurent, certes, ils ne peuvent plus interagir avec nous, mais ils ont conscience de nous. En tout cas, de ceux qui les sont proches. Parce que ce riche, il dit, j'ai 5 frères. Donc, même dans ce lieu de tourment, il se souvient de ses frères. Il dit, j'ai 5 frères, et ce que je leur souhaite le plus au monde, c'est qu'ils ne viennent pas ici. Père Abraham, est-ce que tu peux me faire cette faveur? Est-ce que Lazare, tu peux ressusciter Lazare pour que Lazare aille leur dire, les amis, arrêtez, changez, donnez votre vie à Dieu. Alors on me dit, c'est pas possible. Il dit, mais ils ont la parole de Dieu, ils ont Moïse, ils ont le prophète, ils ont toute la parole de Dieu, qui l'écoute? Il dit, non. Parce qu'il connaît son expérience à lui, puisqu'il y était. Il n'a pas écouté cette parole. Donc, il sait que ses frères ne vont pas l'écouter non plus. Il dit, mais Père Abraham, non. Mais si tu fais Lazare ressusciter, parce qu'ils savent que Lazare est mort. Donc, si Lazare ressuscite, ils sauront bien qu'il vient de la mort. Ils vont l'écouter. Ils vont se détourner de la mauvaise voie. Abraham dit, c'est pas possible. S'ils n'ont pas écouté Moïse, les prophètes et toute la parole de Dieu, même si un mort ressuscitait, ils changeront. Bien aimé, cette parole, elle est puissante. On a un livre comme ça, on croit que c'est juste un livre. Abraham dit, si les gens ne croient pas ce livre, quelles que soient les expériences spirituelles qu'ils vont faire, ça ne change pas leur vie. Parce que la seule qui est capable de changer, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui change les vies. La parole de Dieu. Et l'histoire que Jésus raconte s'arrête là. Notre espérance est une espérance glorieuse, bien-aimée. Dans l'Ancien Testament, les gens espéraient parce que Dieu leur avait promis la terre promise. Hein, leur espérance était dans le pays promis, dans la prospérité, dans la sécurité, dans le retour au pays des pères, dans l'attente du Dieu glorieux, du Messie, dans la nouvelle alliance, dans la conversion des nations, dans la paix universelle qui règne au nom de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, notre espérance est fondée sur Jésus-Christ. Elle concerne essentiellement les biens spirituels. Imaginez-vous que le cœur de 7 milliards d'habitants de la planète soit changé de cœur de pierre en cœur de chair. Que du jour au lendemain, les 7 milliards d'habitants deviennent tous des croyants authentiques. Ça change beaucoup de choses. C'est sûr que ça allait changer beaucoup de choses. Mais hélas, nous sommes chacun de nous responsables de notre choix devant Dieu. Et il y a un bon petit pourcentage seulement qui accepte le Seigneur. Donc les biens spirituels, c'est ce que Jésus nous promet, de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, de changer des êtres foncièrement méchants et mauvais en des êtres foncièrement bons et bienveillants. Voilà le projet de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il y a 2 commandements, mais les 2 sont pareils. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que les 2 sont liés. Quand Dieu remplit le cœur de quelqu'un, bah, forcément, ça se reverse sur les autres. Notre espérance dans le retour du Christ, sa révélation, son avènement, la résurrection des morts. Jésus, Dieu ressuscite Jésus pour montrer que ce qu'il dit est vrai. Il dit, quand vous croyez en moi, même quand vous serez mort, vous êtes vivant. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je suis mort, mais je suis ressuscité. Je suis vivant. Je suis monté au ciel. Donc, ce que je vous dis, c'est vrai. Il dit aux disciples, dans l'évangile de Jean, je vais vous préparer une place. Quand il sera prêt, je viendrai vous chercher. Il dit, si ce n'est pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Si je vous dis, c'est que c'est vrai. Parce que je suis descendu du ciel et j'y remonte. Donc, je vous dis des choses qui sont vraies. Notre espérance est dans cette résurrection. Et peu de temps après avoir raconté cette histoire, après avoir enseigné avec l'histoire du riche et du pauvre Lazare, il va ressusciter quelqu'un qui s'appelle aussi Lazare. Il va ressusciter quelqu'un qui est dans son cercle d'amitié qui s'appelle Lazare. Ce qui est étonnant, c'est que quand Jésus ressuscite ce Lazare, il montre qu'il est le maître de la vie et que ce qu'il a annoncé est vrai. Ce qu'il vient de dire dans la parabole avec ce pauvre et ce riche, bah, il a manifesté puisqu'il a ressuscité un Lazare. Les gens étaient tellement jaloux que quand vous lisez dans l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 10-11, ils ont même cherché à tuer ce Lazare. Parce qu'ils disent, à cause de ce Lazare que tu as ressuscité, les gens croient que ce que tu dis est vrai. Donc si on le tue, bah, il y aura plus de Lazare pour embêter les gens dans la ville en disant, oh, il était mort, il est ressuscité. On est tordu de chute. Incroyable. Il y a eu un miracle comme ça, au lieu de se donner à Dieu, les chefs religieux cherchaient plutôt à tuer Lazare pour tuer le témoignage. Bref, que Dieu nous aide. Notre espérance est dans cette transformation du courant, cette révélation des fils de Dieu, cette rédemption de notre corps, cette vie éternelle, les bienvenus, la gloire, les victoires, le jugement auquel nous échappons. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils ne viendront pas en jugement devant Dieu, parce que Jésus les a déjà acquittés. Ça veut dire que soit Jésus revient, soit nous partons d'ici par la mort biologique, quels que soient les deux cas, nous ne comparaîtrons pas devant le grand jugement de Dieu. Parce que Jésus est notre avocat. C'est énorme. On ne viendra pas en jugement parce que Jésus nous a déjà acquittés. C'est ce qu'on appelle la substitution pénale, la substitution pénale, ça veut dire que nous étions coupables, nous devions comparaître devant ce grand tribunal de Dieu et répondre de nos actes, mais Jésus a pris notre place. Du coup, il a déjà répondu à notre place. Si on comprend ces choses, ça change notre vie chrétienne. Ça change les perspectives de ce que nous pouvons vivre dans notre espérance, dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport à l'autre. Voilà ce que fait notre espérance. Notre espérance, elle est une espérance vivante. Elle nous donne de croire que Dieu veut nous transformer en bien ici pour que nous soyons des hommes et des femmes de bien qui manifestons la bonté de Dieu pendant que nous sommes ici, mais encore plus à la seconde près, au tierce près de notre départ d'ici, nous sommes déjà dans la félicité éternelle. Dieu. Amen. Dieu est au contrôle. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons le dimanche prochain à regarder encore un autre aspect de notre espérance, le ciel. Que Dieu nous aide. Et comment nos œuvres nous suivent dans ce ciel de gloire. Et comment, pendant que nous sommes ici, Dieu nous bénit aussi. Et nous verrons cela dimanche prochain. Amen.